Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis plus d'un demi-siècle, vous avez composé et enregistré des chansons qui, comme vous, ne font pas leur âge. Grâce à elles, c'est toujours la fête, que l'on ait 20 ans ou 4 fois plus. Bonjour Michel Fugain.
Bonjour Jacques.
Eh oui, 4 fois 20 ans ou 20 ans, 4 fois plutôt qu'une, c'est...
Écoute, c'est vrai qu'on est tenté de faire 4 fois 20 ans, parce que c'est comme ça, ça paraît clair. En fait, c'est 2 fois 40.
Oui.
J'ai beaucoup plus envie d'être 2 fois quarantenaire. Parce qu'à 40, on commence à posséder un peu son sujet, voilà, que 2 fois, à 20 ans, c'est que dalle.
Alors, pour ces 2 fois 40 ans, il y aura un spectacle à Bobino, on va en parler. Mais puisqu'il y a quand même 4 fois 20 ans ou 2 fois 40 ans, on va évoquer votre parcours. C'est la tradition du clé d'une vie à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, Michel Fugain, c'est le 22 septembre 1966. C'est votre première télé avec cette chanson.
C'est que je t'aime.
Oh!
Alors, c'est une émission qui s'appelle « Vient de paraître », animée par Pierre Brive, qui a d'ailleurs été le premier à animer Discorama, on ne le sait pas, bien avant de Denise Glaser, qui était son assistante. Et Pierre Brive, « Vient de paraître », c'est le summum pour un jeune artiste, c'est l'équivalent du hit parade. Et vous êtes passé dans cette émission avec un costume, une cravate, une petite pochette, vous en souvenez ?
J'ai revu des images de ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est comme ça, c'est les époques qui se suivent, qui ne se ressemblent pas, quoique, parce que j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a que le paquet cadeau qui change, mais l'essentiel reste identique.
Et alors sur la pochette du 45 tours, il y a 4 titres, dont La famille Fugain, qui est la seule chanson que vous n'avez pas écrite sur ce 45 tours.
Oui, tu veux vraiment me faire mal là, Jacques.
Non mais c'était une belle chanson.
Oui, non, c'est... Parce qu'il y a eu ce premier disque que j'ai dit, je ne fais plus de texte, je n'écris plus de texte jamais. Et c'est là où, après, j'ai pas rencontré Pierre Delanoë, puisque je l'avais déjà vu pour parce qu'il m'avait pris deux airs, deux mélodies pour Hugo Frey. Mais d'un seul coup, on s'est mis à travailler ensemble et je n'ai eu qu'à m'en féliciter.
Voilà. Alors, au dos du 45 tours, il y a toujours un petit texte de présentation. Et curieusement, à l'inverse de beaucoup d'autres, il est parfaitement exact. Je l'ai retrouvé. On dit que vous êtes fils de médecin, ce qui est vrai, puisque
oui.
Votre médecin est un médecin de campagne, comme on n'en fait plus.
Médecin de campagne, jusque... Ouais, c'est un gros médecin de campagne.
Oui.
Et puis après, il s'est installé à Grenoble, où il était un gros, gros cabinet. C'était le plus gros cabinet du Dauphiné. Il faut dire que mon père était... très engagé politiquement, c'est le médecin des pauvres avec des guillemets autour, mais c'est un peu ça quoi, c'est-à-dire il a passé, j'ai jamais connu mon père riche par exemple, il n'a commencé à avoir des sous qu'à la retraite.
Et alors vous avez rendu hommage à votre père avec un square qui porte son nom à Grenoble.
Oui, c'est pas moi qui lui ai rendu hommage. Ouais, mais j'ai tendance à préférer la place qui est à Voreppe où on a vécu 7 ans.
Oui.
C'est toute ma première enfance, je l'ai passée à Voreppe, à 15 km de Grenoble. Et là, il y a une place. Alors, à Grenoble, c'est grand résistant, machin. À Voreppe, c'est docteur Pierre Fugain, humaniste. Et là, quand on a dévoilé le truc avec ma sœur, j'y suis allé de ma larme, quoi, parce que c'est exactement ça. Mon père était avant tout un humaniste.
Alors, Michel Fugain, il y a aussi une école maternelle de Pont-d'Auclay qui porte le nom de Pierre Fugain. Il y a l'école blanche, qui s'appelait avant l'école Blanche-Neige, c'est curieux. La bibliothèque multimédia de Saint-Martin-le-Vinou, Pierre Fugain, et une salle associative à Fontaine qui porte son nom.
Ouais, mais c'était un personnage, attention.
Oui.
C'était un sacré personnage qui... moi, j'ai connu mon père de tout jeune, mais c'était le commandant Mickey. Donc, ses potes de guerre l'appelaient Mickey. Et d'ailleurs, ma mère, qui s'appelait Marie-Louise, il l'appelait Miquette. Hein.
Bien sûr.
Miquette.
Alors, sur la pochette de ce 45 tours, on dit que vous avez décidé de suivre sans enthousiasme la tradition familiale. Effectivement, vous n'avez pas été un très bon élève.
Ah non, non. Il faut dire que ma sœur, ma petite sœur, 3 ans plus jeune que moi, c'est dire le retard que j'avais pris, était en même temps que moi à la fac de médecine. Et on avait... On bossait dans une pièce et les deux bureaux s'affrontaient et que je la regardais bosser, et je fais « Jamais je pourrais faire ça, jamais !» Donc c'est allé jusqu'à ma majorité, oui. Et à 21 ans, j'ai écrit une lettre à mon père pour lui dire « Papa, je ne ferai pas médecine, je veux faire du cinéma. » Ce qu'il ne comprenait pas, mais je me suis barré pendant une semaine. Hein, ouais. Et au bout d'une semaine, il a dit à ma mère « Dis-lui de rentrer, allez !»
Et puis, ben, vous êtes quand même devenu assistant réalisateur, et vous avez un privilège, vous avez été le premier à entendre une chanson devenue un classique.
Ah oui, sur l'hiver du copain.
Ce n'était pas le radeau, oui, de la Méduse.
C'est vrai que c'est un privilège, ça.
Image inoubliable, on était dans la forêt de Fontainebleau, on tournait, à côté du Moulin de la Guéville, d'ailleurs, de chez Yves Robert et Daniel Delorme.
Qui a mis en scène le film Les Copains.
Et qui réalisait, il réalisait Les Copains. Et il y avait là toute l'équipe qui était au-dessus d'un Nagra. Le Nagra, c'était l'enregistreur du cinéma, hein, à ce moment. Maintenant, ça doit être autre chose, j'en sais rien. Et tous, on était tous comme ça. Tu sais, comme une mêlée, avec le regard fixé sur le Nagra, et on entendait ça. Parce qu'au début, sur le Bobino, en fait, Brassens avait fait le Bobino chez lui, et il a dû le faire dans sa cuisine, parce que avant de commencer la chanson, on entend la chaise, tu sais, qui glisse sur le carrelage. C'est attends, émotion totale. Et avec le recul, c'est encore plus émouvant, quoi. Tu dis, putain, j'ai vécu un moment un peu historique.
Oui, complètement. Alors, la guitare aussi, ça a été un déclic pour vous, parce que vous pensiez devenir comédien, et un jour, on vous offre une guitare, Michel Fugain.
Non, Jacques, je suis désolé de remettre dans l'ordre, mais la guitare m'a été offerte par ma grand-mère.
D'accord.
Au lieu, et là, j'étais médecine.
Oui, oui.
Au lieu de m'offrir la sacoche du médecin, tu sais, la fameuse sacoche du médecin, elle m'a offert une guitare. Elle ne pouvait pas imaginer à ce moment-là que ça allait être la guitare qui allait me faire faire plein de choses.
Voilà. Et il y a un autre jour où il s'est passé quelque chose, parce que vous êtes passé dans Vient de paraître, mais 6 mois plus tôt est passé un autre débutant dans cette émission.
Porter du madras et des cheveux longs.
Ouais, absolument.
Le madras Michel Sardou, c'est vous qui l'avez composé, sa première télé, sa première chanson.
Et ouais, il m'en veut encore.
Ah bon ?
Oui, parce que c'est pour les gens qui sont un peu musiciens, c'est à 5 temps. C'est un truc à 5 temps, comme il y avait Dave Brubeck, Take 5. Et le texte était de Patrice Lafont, c'est-à-dire les 4 mousquetaires qu'on a formés dans le cours d'art dramatique de Yves Furet.
Vous êtes resté pendant quelques mois.
On est resté quelques mois jusqu'au jour où Michel Sardou, qui c'est son vrai nom, c'est le nom de ses parents, c'est le nom de la lignée Sardou, qui n'était à ce moment-là que Michel Sardou, le fils de ses parents, nous dit en sortant du cours, il dit « Je voudrais passer une audition chez Barclay ». Quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Bah, il nous raconte qu'il va prendre peut-être une chanson de Johnny, il va présenter une chanson de Johnny. Et là, il dit, et puis j'écris des textes. Patrice Lafont dit, mais j'écris des textes aussi. Patrick Vilchez, qui était le 4e, dit, mais t'en bouge pas, moi aussi. Lui, il était plus poète. Et moi, j'avais une gratte. Et là, tu vois, en buvant notre demi, mais on va te les faire, tes chansons. Et dès le lendemain matin, on s'est mis au boulot. Et là, j'ai découvert, Jacques, quelle découverte, que j'étais mélodiste, que j'adorais ça. J'adorais faire des airs, voilà.
Et résultat, vous en avez fait beaucoup. Vous avez fait un métier qui a aujourd'hui disparu, qui est compositeur dans une maison d'édition, Michel Fugain.
Oui, absolument, absolument. Et je suis désolé que ça ait disparu, parce que c'était vraiment quelque chose de très particulier. On travaillait dans une édition, on est, en gros, tâcherons. Mais bon, c'est pour faire des chansons, on accepte la tâche. Et c'est surtout que tout le métier passait, tous les chanteurs passaient, on était là. Il y avait une atmosphère très particulière dans cette pièce au fond du couloir. Et on faisait, deux ou trois chansons par jour, dont 2 mères et demie, on est bien d'accord, dont 2 bouses et demie. Mais de temps en temps, il y avait une fleur qui surnageait. Et là, le soir, il y avait toujours quelqu'un qui passait, qui s'appelait Charlie Ganem. Et il passait et il écoutait ce qu'on avait fait. Et c'est là où il commençait à dispatcher en disant « Ah, celle-là, on peut la présenter à un tel ou une telle, etc. » Voilà, c'était à la fois passionnant parce que c'est entre le glandage et le plaisir, quoi.
Et à l'époque, vous ne pensiez pas chanter. Et donc, sur la pochette de ce 45 tours, il est écrit aussi « Un directeur artistique le contraint à chanter ».
Oh, Roger Marouani, car c'était un des Marouani. Oui. Je les ai tous utilisés. Les... j'ai fait la Kyrielle de Marouani. Et Roger, qui était un type absolument formidable, j'étais venu lui présenter une chanson pour Marie Laforêt. Et à la fin, il me dit « Mais si vous voulez, je vous fais faire un disque, ça vous tente ?» Pourquoi pas et ça commence par un pourquoi pas, voilà.
Voilà. Et sur ce premier 45 tours, il y a une chanson que je me souviens avoir beaucoup entendue à la radio.
Quelle mémoire!
C'était la phase B du disque et c'est la
c'était
chanson.
La phase B du premier disque, du premier 45 tours.
On l'a beaucoup entendu à la radio.
C'est ce qui a ouvert la suite, c'est-à-dire que c'est passé suffisamment en radio. Pour un jeune mec, c'est passé suffisamment en radio pour que les mecs disent « Bon, allez, on en fait... » D'autant qu'on faisait un 45 tours tous les 3 mois ou quelque chose comme ça. Oui. Ça sortait à flux tendu. Et c'est comme ça que ça c'est parti. Et après ça, il y a eu « Prends ta guitare, chante avec moi ».
Justement, on va parler de tout ce qu'il y a après, dans la suite de l'émission. Et puis, il y a une date importante.
Tu refais tout le trajet.
Ah, complètement. Oh, il y a encore des choses à dire. Et il y a une date importante, c'est le 23 mai 1972. À tout de suite sur Sud Radio pour en parler avec Michel Fugain.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Fugain. Alors, on parlera tout à l'heure de ce spectacle à Bobino le 12 mai, jour anniversaire. Mais un autre jour du mois de mai, c'est le 23 72. C'est un tournant de votre carrière parce qu'il y a Cadet Roussel et Sophie Darel annonce un nouveau baladin dans le monde du spectacle. Et comme Guy Lux bafouille complètement dans l'émission, elle dit « Il s'appelle Michel Fugain et il chante avec le Big Bazar. Et pour la première fois, vous passez à la télévision avec cette chanson. »
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance.
Et j'ai une anecdote.
Oui.
J'ai une anecdote sur Guy Lux, précisément. Oui. On fait donc l'Olympia, archi bourré. Les mecs, ils ont vendu les marches. C'était incroyable. Et Guy Lux, il est venu au spectacle. Et dans ce mois de janvier 73. En début d'émission, il annonce Michel Fugain et le Big Bazar, et il nous a laissé 3 quarts d'heure. Tu imagines ce que c'est ?
Oui, c'est impossible à la télévision aujourd'hui.
Impossible. Mais 3 quarts d'heure où il n'est pas intervenu du tout. Et on a fait une espèce de raccourci du spectacle. Pam, 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 pam. Je ne te raconte pas, quant à ça, on t'a donné un lingot d'or.
Alors, l'idée du Big Bazar, Michel Fugain, je crois qu'elle est née en Allemagne au cours d'un voyage.
Absolument. L'idée du Big Bazar est née, elle est née... Il y a des racines profondes, et la racine profonde, elle monte jusqu'à un truc qui s'appelait Un enfant dans la ville, où on a fait un film télé pour mettre en image le disque, l'album, que j'aime beaucoup, que je continue d'aimer beaucoup. D'autant qu'il était, pour la première fois, il y avait un album sur lequel il y avait plein d'intervenants, et dont la chanteuse, qui s'appelait Marie Rose, qui est une icône en Allemagne, et je l'ai vue il n'y a pas longtemps, on est allé dans une de ses émissions, et c'est véritablement une icône. Et elle était... C'était formidable, et surtout, elle avait... Bon, on fait le film, ça passe en télé, bon, peu importe. Et on arrive au moment de la promo de tout ça. Elle m'invite dans une émission à elle qui se passait en Allemagne, à Brême ou quelque chose comme ça. Et là, pendant les répétitions des autres, je suis dans les tribunes et je regarde un groupe qui étaient tous des transfuges de Air Allemagne. Et ils chantent une chanson qui n'a pas stratifié. Mais par contre, ils balançaient une énergie, les mecs. Et dans ma tête, ça fait « Mais c'est ça que je veux faire. » Je suis rentré en avion le soir. Le lendemain, j'étais au bureau. J'arrive au bureau et je dis à Roland Bismuth, qui était mon associé. Je lui dis « Roland, je veux faire une troupe. Et c'est incroyable, elle me dit, oui Michel, et comment on fait ça? Et elle s'est mise au charbon pour faire savoir qu'on faisait des auditions, etc. Et puis ça a commencé comme ça.
Alors je crois qu'il y a eu 600 auditions.
On auditionnait tout et n'importe quoi. Mais en revanche, le temps a fait son œuvre. C'est-à-dire que je n'avais envie que de gens différents, de gens qui avaient des personnalités et non pas des gens qui pouvaient se retrouver dans un cadre, lever la jambe et machin. Ça, parce que ça, c'était les trucs de télé. Et j'en voulais pas.
Alors, il y a aussi quelqu'un qui a compté, c'est Jean-Michel Boris, directeur de l'Olympia, car Bruno Cocatrix et lui vous ont prêté la salle de danse du 4e étage de l'ancienne Olympia pendant un an.
C'est Bruno. Bah, Jean-Michel, c'était plus fraternel parce qu'on était jeunes tous les deux. Et Bruno, je passe à l'Olympia, je ne sais plus pourquoi, et je dis à Bruno, je suis un peu dans la merde, Bruno, je cherche un studio, un truc pour monter une troupe. Et là, il me regarde, il fait, mais pourquoi tu prends pas le 4e étage ? Il dit, je peux rien en faire, parce que le plancher, il y avait des lames du plancher qui étaient cassées, il était un peu défoncé, dans un coin. Et on a mis un piano juste au-dessus pour personne ne mette le pied dans le trou. Jamais personne, il y a 1000 pieds d'ailleurs. Et on s'est retrouvés éclairés, chauffés, dans un grand studio avec un miroir sur toute la largeur. Et ça a duré 7 ans. 7 ans, on est resté au 4e étage de l'Olympia.
Alors, ce qui est étonnant aussi, ce qui a surpris tout le monde à l'époque dans les articles de presse, ce sont les costumes qui étaient originaux et tout à fait de l'époque. Les costumes.
C'était originaux. Ouais, alors ça se baladait entre cirque musical, machin. Il y avait tout ça. On n'avait pas envie de monter avec un pantalon et une chemise, quoi. Et oui. Est-ce que ça dépendait des fantasmes de chacun? Moi, j'avais une grande cape. Pierre Fugère, une grande cape. J'étais tout en jaune. Pierre Fugère était en blanc. Et on était, oui, un peu des montreurs. Il y avait quelque chose de circassien, si tu veux. C'est-à-dire, ouais, il y avait du cirque là derrière. Il y avait cirque musical, j'en sais rien. Et un peu spectacle de rue aussi. On était assez contents de tout ce qui se passait. Le bémol, c'est que c'était fatigant, quoi.
Oui, mais enfin, quand on voit le premier spectacle qui est plein du jour au lendemain et que le public reprend en chœur cette chanson, on est vraiment surpris et heureux pour vous.
Le printemps est arrivé sur ta maison.
Ah, ça c'est en 76.
Ouais.
Le printemps est arrivé, la belle saison.
Mais à chaque fois, le public est là et reprend tout en chœur.
Ah ben c'était énorme. On a terminé fin 76, et on a un chapiteau. On tournait comme un cirque d'ailleurs. Tout le système c'était très cirque. On restait par exemple, on restait une semaine dans les grandes villes. Au fort carré d'Antibes, on restait 2 semaines. 2 semaines bourrées. Bourré d'une façon incroyable, quoi. C'est parce que c'était festif, c'était très humain. C'est le souvenir que j'ai de tout ce public qui se fait. Mais je peux pas dire public, c'est un peuple, quoi. C'est un peuple qui a aimé ça.
Ah mais oui, c'était. Il y avait toutes les générations, des enfants, les grands-parents, tout le monde. Et en même temps, le premier album, vous avez inventé en France, qu'on appelle aujourd'hui l'album concept, Michel Fugain, ce que Frank Sinatra faisait aux États-Unis, ce qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire une histoire, l'histoire d'un homme de 0 à 25 ans. C'était le premier album.
Oui, c'était avec. On avait l'exemple, c'était appelé le petit homme.
Oui.
Et on le faisait naître, on le faisait en baver pendant tout le spectacle. Et puis on terminait sur de l'espoir.
Oui. Mais c'était tout à fait nouveau d'avoir un album comme ça où les chansons étaient indépendantes, mais il y avait quand même une histoire. Ça n'existait pas.
J'ai un peu de mal à faire autrement, moi.
Ben oui.
Mais même dans le spectacle de scène, puisque je raconte à travers des chansons, je raconte avec ce qu'on a fait avec Pierre Delanoë et Maurice Vidalin, une première partie où on détaille les chansons, on dit ça a été fait comme ça, ça a été fait comme ça. Les gens adorent ça, hein, on est bien d'accord. Quand on leur parle des chansons, comment c'est fait? Parce qu'il y a une sorte de mystère un peu autour de tout ça. Et après, je dis, et je n'ai plus qu'à dire, vous le voyez le temps qui passe, parce que de chanson en chanson, on voit le mec qui prend de l'âge, qui prend de la bouteille, qui arrive même au moment où on fait une chanson qui s'appelle « Je laisse », qui dit simplement « Voilà ce que je laisse ».
En tout cas, il y a une ville où vous avez laissé un grand souvenir, Michel Fugain, c'est le Havre, parce qu'il y a eu un concert avec 800 personnes sur scène, je crois.
Oui, absolument. Absolument. C'était un peu le jeu. C'est un peu le jeu qui s'est déterminé assez vite. Quand on a terminé le Big Bazaar, quand on a fini le Big Bazaar, il y a un mec du Havre qui est arrivé, qui n'est plus au Havre maintenant, mais qui vient et qui me dit « On voudrait que tu fasses un truc à... » Je dis « Attends, je ne suis pas géo d'abord. » Puis on en parle et il est venu nous voir à Bordeaux. Il a fait Le Havre en bagnole toute la nuit. Il était en DS, je me souviens. Et on va bouffer après le spectacle et on est dans un truc à Bordeaux. Je te raconte pas. À Bordeaux, il y a du Bordeaux, ok. Donc on se met simplement en euphorie et je commence à dessiner sur la nappe. Tu vois, on pourrait faire ça entraîne ça, voilà. Et à la fin du repas, il repartait vers le Havre et il dit, ça t'ennuie pas que je prenne la nappe? J'ai dit, bon non, il prend la nappe. Et ce mec qui s'appelait Max Cerveau, on se quitte là et au mois de janvier, du début janvier. Et je reçois un coup de fil et me dit « Michel, c'est Max Ferreau, tu sais, on s'est vu à Bordeaux. J'ai montré la nappe et ils sont d'accord. » J'ai dit « Mais t'as montré quoi ?» Puis je me souvenais plus du tout ce qu'il y avait sur cette nappe. Et ils sont d'accord. C'est-à-dire la ville du Havre était d'accord pour la dinguerie que j'avais fait sur la nappe. Et on a fait ce qu'il y avait sur la nappe, voilà.
Ça a été un grand spectacle. Un autre événement qui s'est produit, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas je vais vous le faire découvrir, le 15 juillet 2018. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Fugain.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Michel Fugain, 2 fois 40 ans, qui seront fêtés le 12 mai à Bobino. Yes. Et puis une date, le 15 juillet 2018, alors elle là... est liée à un événement que voici. La finale de la Coupe du Monde de football, remportée par la France devant la Croatie par 4-2. Et vous en êtes un peu responsable, parce que Didier Deschamps a déclaré que quelques jours avant, pour mettre l'équipe en forme, les Bleus en forme, il avait fait écouter du Michel Fugain dans le bus.
Non.
Si. Et qu'ils écoutaient du rap, ils ont arrêté le rap, ils ont découvert Fugain, et ça les a mis en forme pour la journée. Vous ne le saviez pas ?
C'est incroyable.
Ah mais ils ont tout écouté, et notamment cette chanson qu'ils ont repris encore dans le bus et ils se sont mis à danser. C'est vrai que cette chanson, c'est une fête.
C'est un peu la folie, ouais. Mais c'est d'autant plus rigolo, si tu veux. Moi, je sais comment elle est partie. Elle est partie dans le bus, alors qu'on sortait du petit déjeuner, on était en tournée, et on est dans le bus, j'ai ma gratte, et puis je commence. Et c'est parti dans un bus, alors qu'on avait encore les yeux, toi, à peine ouverts. C'est incroyable. Moi, je suis pas... Autant je ne me paluche pas avec la célébrité, les machins comme ça. Autant le chemin de la création me fascine encore, c'est-à-dire, tu te dis, putain, ça part, comment ça part? Comment ça va? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, sous les mains, il y a un truc qui part, qui aura une vie, qui a un destin, quoi. Mais c'est toujours surprenant, quoi.
Mais c'est la fête aujourd'hui encore, dans les bals, dans les festivals, on entend, c'est la fête et tout le monde reprend en cœur.
Ouais, mais attends, je suis un garçon excessivement privilégié, moi, pour ça. Pour ça que je dis volontiers que j'ai bien fait mon boulot, on a bien fait notre boulot. On est plusieurs comme ça dans ma génération. Avoir bien fait notre boulot, c'est-à-dire on ne s'est pas moqué des gens... On n'a pas fait du commerce Simplement, on est l'équivalent déjà. On était, voilà, je suis un Français comme tout le monde. J'ai envie de me marrer. J'ai envie aussi de temps en temps d'avoir une nostalgie ou des sentiments qui sont plus intimes. Mais je suis comme tout le monde. Les gens ne sont pas des monolithes. Les individus ne sont pas des monolithes. Le matin, ils sont comme ça. Puis y a un truc, d'un seul coup, ils prennent la pigne, ils casseraient bien la gueule à quelqu'un. Puis après, ils se calment. Et le soir, avant de se coucher, il se passe un truc doux.
Voilà. Alors, j'en reviens au début de votre parcours, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. La première fois que vous avez été numéro 1 au hit parade, Michel Fugain, c'est avec cette chanson.
Prends ta guitare, chante avec moi, joue fort et longtemps, chante avec moi, ne t'arrête pas.
Yep. Ouais, c'était le premier numéro 1 au hit parade, c'est un événement.
Il n'y a pas si longtemps, je l'ai remise dans le spectacle, tu vois, ça te fait bizarre quand tu fais... Et quand je demande à mes loulous la bande à part, puisque c'est cette bande-là, je dis, le jour où je leur dis « Et si on mettait la... prends ta guitare, chante avec moi. » Oh ! Et immédiatement, les mecs, ils s'y mettent et ils trouvent ça super à jouer. Mais parce que je mélangeais « Prends ta guitare, chante avec moi » avec une chanson qui est venue nettement plus après, qui s'appelait « Les années guitare ».
Oui.
Partant du principe que, dans le spectacle, je l'utilise comme ça d'ailleurs, pour dire que les années 80, c'était des années guitare. Les années 70, c'était des années guitare. Les années 80, c'est des années synthé. Et je dis volontiers que c'était des années... C'est complètement con, un synthé. Il n'y a pas de prise dans la rue pour écouter un synthé. Alors que dans les années 70, on avait tous des grattes, on avait tous des guitares.
Et même, il y a des pianos dans les gares partout aujourd'hui.
Ah ben maintenant, oui. Des fois, ils vont dire un peu... Il faudrait qu'ils soient sourds, les pianos. Parce que, oh putain...
C'est un autre débat.
Les égos qui jouent au piano dans les gares, oui. D'un coup, t'as envie de dire « Stop !»
Surtout quand on est une locomotive comme vous.
Ah non, mais c'est...
Bon, enfin. Alors, il se trouve que « Prends ta guitare », ça a tranché avec l'époque yéyé, parce qu'on est théoriquement en pleine époque yéyé. Vous arrivez avec un répertoire tout à fait différent, Michel Fugain.
Oui, par les puristes, je ne suis pas considéré comme un chanteur pop, mais c'est de la pop musique, simplement adaptée à notre pays. C'est de la musique populaire, mais c'est très pop. Prends ta guitare, chante avec moi, tu fais chanter ça par un Anglais, et c'est une chanson pop. Hein.
Bien sûr. Alors, les critiques disent aussi, en parlant de vous, il a belle allure et de la distinction, ce qui devient rare à notre époque.
La distinction, j'en sais rien, mais j'ai mon juge de paix qui est Sanda, qui est pas loin.
Oui.
Et si j'en avais pas, elle me corrigerait gravement. Mais oui, j'ai du bol. J'ai du bol et en même temps, je me suis pas abîmé. J'ai pas picolé outre mesure. Je me suis pas drogué, rien du tout. Je suis un garçon excessivement normal. Et je dis la scène que j'ai pratiquée énormément et que j'ai pas arrêté de pratiquer jusqu'à maintenant, à part dans la pandémie, cette chiennerie de pandémie. J'affirme que quand on est sur une scène, le temps s'arrête. C'est-à-dire, tu prends tout ce temps que tu as utilisé sur des scènes et tu le retranches de ton âge, parce que on ne bouge pas sur scène. Si je monte à 20 ans et que j'en sors à 80, j'ai toujours 20 ans.
Voilà, et il y a beaucoup d'années à retrancher. Votre première scène, je crois que c'est en première grande scène, en première partie d'Adamo à l'Olympia, en 69. Vous avez fait ?
À vérité, il y en a une autre, mais j'ai une anecdote avec, c'est ça qui est extraordinaire. Je fais le lever de rideau, ce qu'on appelle le lever de torchon. Le lever de rideau dans un spectacle où passait Nino Ferrer. Et là-dessus, mon attaché com de l'époque dit « On peut faire achetant des têtes de bois ».
C'est l'émission vedette d'Albert Esner.
Oui, mais je suis sur scène. Oui, mais il ouvrirait avec toi, que ça commençait vraiment à 8h30. Hein. Tu passes à 8h30, immédiatement on te descend à l'Olympia, à 9h moins le quart, t'es là-bas. Je vais voir Bruno Cocatrix et je dis Bruno, j'ai fait un soir, hein. J'ai fait le mardi soir Et le truc, c'était le mercredi soir. On tournait le mercredi. Et je m'en explique à Bruno, qui me dit non. Non ? Vous voulez pas, Bruno ? Ok. Je ne suis jamais retourné à l'Olympia.
Incroyable.
Je n'ai jamais retourné. Ce qui m'inquiétait, c'est il va m'en vouloir. Il s'en souvenait pas. Il s'en est jamais souvenu. Il a fallu que je lui rappelle.
À cette époque, il y a une chanson que tout le monde connaît et que tout le monde connaît encore aujourd'hui.
Je n'aurai pas le temps.
Ah ouais.
Pas le temps. Même en courant. Plus vite que le vent. Plus vite que le temps.
On peut écouter cette chanson 100 fois avec le même bonheur.
J'en fais pas une règle, mais. Quand ce que tu as fait plaît et que c'est une chanson comme ça, ça installe très très fort l'avenir, quoi. Ça installe très fort. Parce que c'est vrai que tous les trucs qui bougent, c'est bien, c'est anecdotique. Les gens peuvent aimer, ah, j'aime bien, sympa. Mais quand tu arrives avec une chanson où il y a du fond, où il y a du fond, de la forme, c'est... Il y a une belle mélodie, quoi. Il y a une jolie mélodie, même encore maintenant. Les mélodistes, ils font « Waouh, quelle mélodie !» Et ça installe très fort. Tout ça, c'est tout des contributions de chansons à quoi ? J'emploierai pas le mot « carrière ». On va mettre des guillemets pour pas que personne me dise que je me prends pour n'importe quoi. C'est une œuvre, quoi. Quand t'arrives, t'as fait 56 ans de carrière... Ce que tu as fait, c'est une œuvre, d'autant que j'ai toujours veillé à ce que tous les albums soient remplis de chansons, de bonnes chansons, toutes mettables sur scène. J'ai pas réussi tout le temps, mais la plupart mettables sur scène. Et tu vois le mec qui bosse, le mec qui évolue, c'est ce que j'appelle une œuvre. Pareil pour les peintres, c'est-à-dire, tu sais, le mec au début il met plein de traits, puis à la fin il y a plus qu'un, il y a un trait, il a fait. Je suis toujours Matisse.
Alors il y a une chanson aussi qui a démontré que vous êtes aussi un pionnier de l'écologie, parce que vous l'avez créé à une époque où personne n'en parlait. C'est Les rues de la grande ville.
Regarde les rues.
C'est vrai qu'à l'époque, personne ne parlait d'écologie. Moi, je me souviens très bien vos déclarations. On vous prenait pour un fou, Michel Fugain.
Oui, mais on était deux à être concernés. J'ai dit toujours qu'avec Maxime, le forestier, on était des chanteurs citoyens. Pour nous, le mot vedette était un mot un peu caca pour exactement notre âge, quoi. Le mot vedette, c'est les stars et tout ça. C'était ringard, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Et Maxime aussi était très concerné par l'écologie, par les choses qui nous entourent, très concerné, quoi. Et oui, mais regarde, après, dans la fête de merde, que ma ville est belle sans ces putains de camions. Je chante, donc, toutes ces chansons, je les chante, dans des formes différentes, bien sûr, mais bravo Monsieur le Monde, que je ne fais qu'avec un piano. À la fin, je dis, les mecs, c'est la même thématique qu'aujourd'hui, quoi.
Oui, bien sûr, ça n'a pas changé. Mais les rues aussi, il y a une chose qu'on ne sait pas, c'est que à une époque, il y avait des rues de Paris qui portaient des noms curieux, comme la Grande Truanderie ou la Petite Truanderie. Pourquoi ?
Moyen Âge.
Et pourquoi ? Parce que les gens ne savaient pas lire et qu'il fallait une référence d'une boutique ou d'une corporation pour que les gens sachent où ils étaient.
Ah oui, ça je savais pas.
Voilà. Et il y a une chanson aussi qui évoque votre parcours et le temps qu'il a fallu pour que ça marche. Le temps met longtemps.
Le temps.
Oh, mais ça, c'est au début.
Ouais, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson.
Pour effacer le temps du désert qui devint un jardin pour l'amour d'une.
Une vraie mélodie, une guitare, et ça fonctionne.
Je te dis, je ne me paluche pas. Hein. Il m'arrive de réécouter, surtout quand on prépare un spectacle, ouais. Puis tu es obligé de refaire le tout, des fois que Yann. Et je suis encore surpris de faire, de tomber sur des mélodies dont je me dis, putain, c'est joli ce machin. Comme si ce n'était pas moi qui avais fait. Tu vois, j'écoute. Mais je ne sais pas. Je ne peux pas expliquer ça. C'est, je suis un, autant je ne suis pas chanteur, je suis un parleur en musique. Ce qui, et je revendique ça. Mais c'est de faire des mélodies, c'est terrible, quoi. Je suis très, très malheureux que les mélodies disparaissent, qu'on remplace ça par de vagues riffs et tout ça. Alors que les gens sont en attente de mélodies.
Mais je suis convaincu qu'elles vont revenir, et c'est peut-être parce que vous êtes l'un des rares à être mélodiste que vous êtes toujours dans la note. Et on va en parler avec une autre date, le 12 mai 2022. A tout de suite sur Sud Radio avec Michel Fugain.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Fugain, 12 mai 2022, donc deux fois 40 ans, ce qui est incroyable quand on vous voit parce que vous êtes une jeunesse éternelle.
Putain, j'aimerais bien. Non, mais pour l'instant, tout va bien, Inch'Allah, quoi. Tout va bien, j'ai simplement remplacé une pièce, mais j'avais un genou qui me faisait mal, donc on a mis un peu de ferraille, on a mis du titane, ce qui permet que, quand je passe à l'aéroport, ça siffle.
Oui.
Mais ouais... Il y a plein de choses qui contribuent, mais jusqu'à l'amour. Hein. Je suis un fou amoureux de ma femme depuis 20 ans. On vit en Corse, Jacques. C'est-à-dire un pays où quand tu ouvres les volets le matin, il fait soleil en hiver.
La Corse, vous l'avez découvert un jour, il y a très longtemps, et vous êtes tombé immédiatement amoureux de l'île de beauté.
Dingue. Dingue pour différentes raisons. C'est une montagne qui tombe dans la mer. J'arrive de Grenoble, je suis un homme des montagnes. Et la mer Méditerranée, c'est plutôt du côté de ma mère, qui était italienne d'origine, enfin, comme ça. Et je dis, j'ai toujours dit, la Méditerranée, c'est mon liquide amniotique. Je suis en osmose absolue avec cette île au milieu de l'eau.
Et il a fallu se faire accepter par les Corses. Quand on vient du continent, c'est pas évident, Michel Fugain.
J'ai pas vécu ça comme ça pour une raison simple. Je suis allé pour la première fois en Corse en 69, invité par un Corse incroyable, mais vraiment hors des clous tout le temps, mais un personnage tellement charismatique, populaire en Corse, en Balagne exactement, qui s'appelait Fortuné Lebras, qui m'avait dit « Tu connais la Corse ?» Et j'ai dit « Non. » Eh ben, tu viens. Et là, je suis passé par les amis de... J'étais l'ami de Fortuné. C'est l'ami de Fortuné. Puis après, j'ai connu un autre qui s'appelle Pierre Mariani, Piero Mariani. Et je suis devenu l'ami de Piero. Jusqu'au jour où j'ai compris que j'avais passé l'examen, je suis devenu Miguet. Oh, Miguet ! Voilà. Et
c'est comme ça.
Ouais, et j'ai passé plus de temps... En Corse qu'à Grenoble.
Un petit point d'histoire, justement. En mai 1768, Louis XIV prend la Corse parce que la ville de Gênes a une dette et lui donne la Corse en échange.
Louis XV.
Il est furieux, les Corses sont furieux, et les Français arrivent, ils vont se faire jeter, il y a une bagarre, il y a beaucoup de morts en Corse, et il y a une dame qui échappe à ce massacre, elle est enceinte de 6 mois, elle dit un jour, mon fils vengera tout le monde. C'était la mère de Napoléon.
C'est bon ?
Oui.
Ah ouais ?
Elle était enceinte de 6 mois, elle a échappé au missile.
Voilà, je ne savais pas ça.
Voilà.
Mais de ce combat-là, est arrivé le mot pinsoud, pour au pluriel, parce qu'ils avaient des chapeaux pointus. Et pour les Corses, c'était les pointus. Oh, les pinsoudi.
Voilà. Alors, le 12 mai, donc, vous fêtez votre anniversaire à Bobino avec un nouveau concept, un groupe que vous avez créé, qui est la Bande à Part.
Oui, mais je ne l'ai pas créé maintenant. Hein. Il s'est créé tout seul. Il faut savoir un truc, on ne doit pas être nombreux dans ce club-là. Je n'ai jamais choisi un musicien. C'est-à-dire qu'il y en a un au départ qui a fait la première équipe il y a très longtemps, dans les années 90. Après, c'est toujours les musiciens qui se sont choisis. Et, Et il y a un moment, ils me connaissent tellement depuis tellement longtemps, ils savent qui peut pas. Qui a l'esprit, qui a pas l'esprit. Le premier truc qu'on se pose, c'est il a l'esprit ou il a pas l'esprit. Et les gens qui viennent, le dernier arrivé, c'est le batteur, qui s'appelle Enrico Mattioli, qui est... Mais il a les doigts de pied en bouquet de violettes, il dit, mais c'est quoi ce club? C'est quoi cette bande dans laquelle on est si bien? Parce que c'est vraiment ça, il n'y a qu'un truc qui nous plaît, qui nous intéresse, c'est le bonheur qu'on prend à faire notre boulot, à chercher, à jouer. On est en osmose totale avec ce groupe. Alors, ce n'est pas un groupe fabriqué, c'est véritablement... C'est ma bande, quoi. C'est vraiment ma bande.
Et bande à part, Michel Fugain, ça vous va très bien parce que vous avez toujours été en dehors du show business traditionnel.
Absolument. C'est exactement comme ça que je l'ai justifié pour les producteurs. J'ai dit, écoutez les mecs, j'ai toujours été à part. Je suis jamais passé sous les fourches caudines du métier. J'ai toujours été à part. C'est ce qui fait que la place est tellement spéciale que des fois, le métier l'oublie, quoi. Ils m'oublient parce que je ne fais pas partie du métier. Et ils ont bien tort parce que les gens me montrent exactement le contraire, quoi.
Exactement. Et le public, notamment, avec ce spectacle où il y a différentes chansons, dont celle qu'on a évoquée tout à l'heure, Les années guitares.
C'était les années guitares, les années couleurs d'espoir. C'était l'âge où tout est permis.
Ah ouais, c'est pas de la nostalgie, c'est presque de l'histoire.
Ah, en ce qui concerne les années 70, on est dans l'histoire. C'est quoi cette époque post-68arde? Je dis bien post parce que c'était autre chose. Et quand on me demande comment est né le Big Bazar, ça vient après ce cataclysme, cette espèce de séisme mondial, puisque il s'est passé aux États-Unis, ça s'est passé en Tchécoslovaquie, partout. Il y a eu, est-ce qu'il y avait un alignement de planètes, j'en sais rien, qui fait que, après ça, les marchands, les fabricants, le pognon, au sens le plus large du terme, ne savaient plus par quel bout prendre les gens. Et on a eu une sorte de gap, comme ça, d'espace complètement gelé, sidéré, où il y avait la liberté partout. Les sapes, tu parlais des costumes, etc. Mais dans la rue, c'était la folie, c'était quelque chose de tout à fait libéré, complètement. C'est vers les années 75, en fait, c'est avec paradoxalement, c'est avec la musique punk que l'argent s'est remis sur la musique. Ce qui est un comble, que d'un seul coup on a compris que la musique, elle mettait son argent là où ça rapporte, quoi. C'est-à-dire que même quand le message délivré par la musique punk est de détruire l'argent, les gens qui mettent l'argent.
Alors, j'en reviens à ce spectacle de Bobino pour votre anniversaire le 12 mai. Il y a dans la bande à part une femme, chère à votre cœur, c'est Sanda, qui vous a rejoint dans la bande.
La Sanda, oui, bah oui. Ça aussi, c'est un truc. Quand le chanteur arrive avec sa femme, ça s'est passé à Ajaccio, ouais. Arrive avec sa femme, d'abord les mecs ils font « oulo, 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 oulo ». Elle va nous le changer, elle va être chieuse, etc. Et là, l'espace d'une soirée, ça a été réglé. Il faut dire qu'elle est assez volubile, elle est drôle, elle est bourrée de quelque chose. C'est un soleil. Ma femme est un soleil.
Et voilà. Elle intervient dans le spectacle de la bande à part.
Ah oui, bien sûr. Elle intervient dans le spectacle, elle chante. Elle a même une chanson. Il y a un moment où deux chansons se répondent. Elle qui chante une chanson qui s'appelle « Laissez danser », où elle chante « Laissez danser ». Et moi, qui suis censé être séduit par, puisque ça commence par « Jusqu'au jour où elle chante », et moi j'arrive et fais « Un sourire, il suffit d'un sourire ».
Et le sourire, ça permet aussi, avec l'amour, de s'envoler. Et s'envoler, ça fait penser à une chanson. Oui, parce qu'on a eu des hauts et des bas, on laisse un peu notre vie, c'est assez particulier.
On laisse... Oui. Alors, bon, comment me placer et faire comprendre ? Je ne suis pas nostalgique. Je suis un fataliste. Ce qui arrive, arrive. D'accord ? Je ne dis pas ce qui doit arriver, parce que ça voudrait dire qu'il y a un destin. Ou alors c'est la conséquence d'une connerie ou de quelque chose. Ça peut exister. Je ne suis pas nostalgique, je suis fataliste. La vie se déroule. Je me suis dit, si t'es pas un con, si t'es pas nul, si t'es pas omnubilé par ton nombril, normalement, il n'y a rien qui doit t'échapper. Il n'y a rien. Pas une pensée, pas un comportement, pas un éclair d'intelligence qui va passer. Il n'y aura pas un talent qui peut te passer à côté, à côté duquel tu peux passer. Tu vas tout voir, tu vas tout recevoir, tu vas tout prendre. J'ai pas d'autre philosophie, c'est-à-dire je suis ouvert, et d'ailleurs je l'ai défendu auprès, quand j'avais l'atelier à Nice, je dis, vous êtes d'abord ouvert, vous commencez à poil et complètement ouvert, porte ouverte, fenêtre ouverte, vous laissez rentrer la vie, vous apprenez quoi, vous apprenez des autres bien sûr.
Voilà. Et on apprend, alors on a des hauts et des bas, vous en avez eu notamment après le Big Bazar, mais on remonte toujours, on s'en sort toujours quand on a la pêche, quand on a envie, Michel Fugain.
Je crois l'avoir dit quelque part. Si on me perce les oreilles et si on me coupe les mains, c'est fini. Ok, d'accord. Là, je pourrais vieillir. Je vais d'un seul coup me flétrir, tu sais, comme dans certains films. Et j'arrête. Et là, je pourrais plus rien faire. Tant que j'ai des oreilles, tant que j'ai des mains. Là, les enfants, vous n'avez pas fini d'entendre parler de moi.
Et de vos chansons, celles de jadis et celles de l'an 2000 notamment.
2000 ans et toujours, on rase les cons et les tours. On voit mieux les gens, les couleurs, les contours.
Encore une mélodie où on tape dans ses mains.
Ouais, bon, ça, là c'était un. On attendait l'an 2000, donc on attendait. C'est ce que je dis sur scène. Putain. Moi, je suis un boomer, première époque, hein, je suis né en 42, donc le booming n'existait pas encore. Je suis un boomer, première époque, c'est-à-dire sans les défauts. Et. J'ai fait partie de ces gens qui pensaient qu'en l'an 2000, les voitures allaient voler. Et 22 ans plus tard, on roule en vélo et en trottinette. C'est quand même très, très particulier. C'est une espèce de régression. Je ne sais pas. J'ai une difficulté à trouver de la raison dans tout ça.
Vous n'êtes pas le seul, je crois. Et on avait parlé à l'époque du bug de l'an 2000. En fait, il n'a pas eu lieu. En fait, il y avait eu juste un problème. C'est quand on repassait à zéro, on n'avait pas 20, mais 19. Donc, les programmateurs ont eu des problèmes de ce côté-là.
Ah oui, c'est bien fait pour nous.
Alors, quand vous voyez votre parcours, vous pensiez qu'il serait aussi long, Michel Fugain ?
Écoutez, mon cher Jacques, j'ai pas de pensée parce que je ne pensais pas. Je ne pensais pas, et je pense très très peu. Je suis hyper concerné par l'avenir. J'ai beau l'imaginer, mais je sais, je me suis fait engueuler par ma sœur d'ailleurs, je sais que je ne suis pas un homme du futur. Il ne me plaît pas le futur qui vient. Donc, on va faire un pas, ça me donne un peu le cœur lourd de léguer ça à mon fils, qui lui a 30 ans, ou presque, mais qui fait plutôt partie de mon club, c'est-à-dire le même genre de comportement, d'un type formidable. Mais je sais que je ne suis pas un homme du futur.
Et je crois que vous n'êtes pas le seul, contrairement à ce que certains pensent, c'est même la majorité qui, comme vous, aime la vie et la chante. La vie, vous la chantez et vous l'aimez, Michel Fugain.
Je suis un fou de la vie.
D'ailleurs, il y a Bobino le 12 mai pour vos 2 fois 40 ans, et après ça va continuer en tournée, vous n'allez pas arrêter comme ça.
Ah oui, bien sûr, mais la tournée, elle ne partira qu'en janvier 2023. Parce que notre métier a été secoué très très fort. Il est carrément sinistré, notre métier. Et que le rapport entre les spectacles et le public ne s'est pas réétabli. Pour que les gens comprennent, c'est-à-dire les producteurs tablent sur ce qu'on appelle les résas, les réservations. Et pour l'instant, le public ne réserve pas, pour quelque tournée que ce soit. Et donc, les producteurs disent « Putain, je ne peux pas prendre le risque d'aller s'il n'y a pas de résa. » Alors que les gens viennent à la dernière minute.
Tout à fait.
Ouais, les gens viennent à la dernière minute. C'est quand même particulier, quoi. Il y a une espèce de trouille ambiante qui fait que, pour l'instant, on n'est pas réinstallé. Les rapports ne se sont pas réinstallés comme ils étaient.
Je suis sûr que ça s'arrangera et qu'on retrouvera tout ça, qu'on vous retrouvera sur scène, et en attendant, le 12 mai, vos 2x40 ans à Bobino, et on sera là pour les fêter et vous souhaiter un bon anniversaire.
Vous êtes le bienvenu, Jacques.
Merci Michel Fugain, ne changez surtout rien, continuez comme ça.
Je ne changerai rien du tout.
Merci.
Trop tard.
Trop tard, oui. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.